Europe 1. Europe 1. Christophe Ondelatte.
Voici une affaire du 19e siècle, de 1867, autrement dit sous Napoléon III. L'enquête sur le meurtre de Sidonie Mertens en forêt de Fontainebleau. Et vous découvrirez que l'on peut tuer pour une épicerie. Cette histoire, je l'ai tirée du livre de Myriam Tsikounas, qui est professeure d'histoire contemporaine à l'université de Paris 1, livre qui vient de paraître, « Le monde de Mathilde » aux éditions Georges. J'ai écrit mon récit avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
La scène se déroule en forêt de Fontainebleau, en mai 1867, sous le Second Empire, donc, sous Napoléon III. Un cocher, en route pour un château au lieu-dit la tête à l'âne, aperçoit au bord du chemin, à quoi, un ou deux mètres, une jeune femme, une élégante, qui semble piquer un roupillon dans l'herbe. Pour se protéger du soleil et de la lumière, l'élégante a placé une ombrelle au-dessus de son visage.
Où va les dieux ? Bon, y en a qui se gênent pas dans la haute.
La haute société, ça va sans dire. La robe de la dame ne laisse pas beaucoup de doutes. Sauf que le lendemain, sur le chemin du retour, elle est toujours là, l'élégante, à la même place et dans la même position, étendue façon belle au bois dormant, avec son ombrelle au-dessus du visage.
Sacrebleu ! Oh, c'est pas bien normal, ça. Oh !
Il descend, il s'approche.
Madame ! Madame !
Il ne se fait aucune illusion, en vérité. Elle n'a pas dormi là. Il soulève l'ombrelle.
Oh, Jésus-Marie-Joseph ! C'est pas Dieu possible !
Le visage de la dame est complètement décomposé, rongé par les insectes. Le cocher, immédiatement, va prévenir la police de Fontainebleau. C'est le commissaire Trochery qui est envoyé sur place. Et donc c'est lui qui fait les premières constatations.
Alors, un éventail se trouve près du corps. La morte tient dans sa main droite une touffe d'herbe. Bon ben c'est tout.
Allez, on la charge. Vous me la conduisez à la morgue.
Il s'agit d'abord d'identifier la dame et par ailleurs de réaliser une autopsie pour savoir de quoi elle est morte. C'est le médecin-chef de l'hôpital de Fontainebleau qui s'y colle.
Bien, bien. Je vous propose de commencer par retirer son alliance. Normalement, ce genre de dame a une alliance qui est gravée à son nom. Voilà. Elle est gravée, effectivement. La lettre E suivie d'un point. Mertens, M-E-R-T-E-N-S. Puis la lettre A, suivie d'un point, Dusart, D-U-S-A-R-T. Eh bien, cela devrait nous aider à l'identifier. Voyons sa montre maintenant. Ah, il est indiqué qu'elle provient de Boulogne-sur-Mer.
Et ensuite, le docteur attaque l'autopsie elle-même.
Vous voyez là, ça c'est très caractéristique. Sa langue est gonflée. Et vous remarquerez que ses mâchoires sont crispées. Pour moi, c'est assez clair. Elle a été empoisonnée.
Et avec quoi, docteur ?
De l'arsenic, probablement.
Là-dessus, un juge d'instruction est nommé. Il s'appelle Hippolyte Bouilly. Et il ordonne immédiatement une expertise toxicologique pour savoir si c'est bien de l'arsenic. Le toxicologue se présente à la morgue le lendemain.
« Avez-vous prélevé le contenu du bol gastrique ?»« Très bien. Alors, nous avons des quartiers d'orange, quasi intacts. Et puis ici, vous voyez des morceaux de pommes de terre. Et là, de la viande, de bœuf, oui, je dirais que c'est du bœuf. » Tout cela n'étant pas digéré, je dirais que la mort est intervenue environ une heure après le dernier repas.
D'accord, d'accord. Mais ça ne nous dit pas qui est la morte.
Bon, sa montre provient de Boulogne-sur-Mer. Hein ? Si elle se trouvait à Fontainebleau, c'est probablement qu'elle était en villégiature. Et si nous faisions le tour des hôtels de Fontainebleau, hein ? Qu'en pensez-vous ?
Les policiers vont frapper à la porte de tous les hôtels. Et à l'hôtel de France et d'Angleterre...
Ah ben oui, moi je la connais bien cette dame. Elle est arrivée ici le 7 mai, par le train de 6h30. Et elle était accompagnée d'une amie, enfin, à ce qu'elle m'a dit.
Ont-elles dormi dans la même chambre ?
Non, non, elles avaient chacune leur chambre, la 11 et la 12. Mais elles voulaient que les chambres soient communicantes. Et qu'on puisse déverrouiller la porte qui les sépare. Voilà. Que souhaitez-vous savoir d'autre ?
Ben alors non. Je suppose que vous tenez un registre. Est-ce que vous avez leur nom ?
J'ai un registre, effectivement. Alors, la pauvre femme dont vous me dites qu'elle a été tuée, ça s'appelle Madame Folleville. Et son amie, Madame Lebouy.
D'après ce que dit le patron de l'hôtel, elles ont dîné là, le soir de leur arrivée.
Oh, je peux vous dire qu'elles ont une sacrée descente, hein, pour des dames. Elles m'ont bu deux bouteilles de Mâcon. Et après ? Eh bien, après, elles sont allées faire quelques commissions, des produits de toilette, d'après ce que j'ai pu voir à leur retour. Et ensuite, elles se sont couchées. Et le lendemain ? Eh bien, le lendemain, elles ont demandé un cocher, hein, pour aller se promener en forêt. Et les amener jusqu'à l'auberge de Franchard, où elles avaient l'intention de déjeuner. Et sont-elles rentrées le soir venu ? Madame Lebouy, oui. Elle est rentrée vers 5h. Mais elle est rentrée seule. Je lui ai demandé où était son amie. Elle m'a dit qu'elle s'était perdue dans les fourrés.
Tiens, tiens. Perdue dans les fourrés.
Et pour le coup, Madame Lebouy était bien embêtée parce qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'argent pour payer les chambres. Et donc elle ne vous a pas payé ?
Si. Si finalement elle est allée vendre une broche qu'elle avait chez un bijoutier, là, pas loin.
Et si on allait le voir, ce bijoutier ?
Oui, oui, je lui ai bien racheté sa broche au poids de l'or. Mais voyez-vous, ce qui m'a étonné, c'est que quand elle a ouvert son portefeuille pour y mettre l'argent que je lui avais donné, il était plein de billets. Je me suis demandé pourquoi elle vendait sa broche, alors.
Heureusement, le bijoutier a noté le nom et surtout l'adresse de la dame. Madame Frégard Lebouy, 15 rue du Beaujolais, à Paris. Le juge demande immédiatement à la police parisienne de se rendre sur place. C'est à deux pas du Palais Royal, un petit hôtel meublé.
Cette dame est bien descendue chez nous, je vous le confirme. Mais elle est partie le 10 mai.
Dès lors, peut-être connaîtriez-vous son nom et son prénom ?
Oui, oui, oui. J'ai inscrit Mathilde Lebouy Frigard. Je crois que son vrai nom, c'est Frigard. Lebouy, c'est son nom de femme.
Et vous n'avez pas idée où elle a pu aller ?
Ah si, si. Elle vient de faire l'acquisition d'une épicerie, figurez-vous, la Ferme Impériale, rue Montolon. Je crois même qu'elle s'est installée juste à côté, au numéro 34.
Je vous remercie pour votre sollicitude, madame.
Oh ben de rien, commissaire, c'est bien normal.
Le 19 mai, trois policiers se présentent à l'épicerie.
Madame Frigard, je vous prie.
Vous la trouverez dans l'arrière-boutique.
Madame Frigard, vous êtes en état d'arrestation et nous allons procéder à une perquisition de votre logement.
Mais de quoi s'agit-il ? Enfin, je ne comprends pas.
Chez elle, on trouve un revolver de marque Le Faucheux. Il a été acheté récemment, le 3 mai. La dame est immédiatement emmenée vers la préfecture de police.
Bien, madame, je présume que vous savez pourquoi vous êtes là.
Mais pas du tout, monsieur le commissaire.
Nous enquêtons sur la mort de votre amie, madame Mertens. Quel est son prénom, d'ailleurs ?
Sidonie. Elle s'appelle Sidonie, mais c'est pas Mertens, c'est Mertens. Elle est belge.
D'accord, d'accord. Mertens. Et vous confirmez, vous êtes rendu avec elle à Fontainebleau ?
Oui, oui, bien sûr. Sidonie se trouvait enceinte. Et nous avions rendez-vous là-bas avec un Anglais prénommé William qui devait lui présenter une avorteuse. Vous savez, j'ai vu dans le journal qu'elle était morte. Mais croyez bien que j'y suis pour rien.
Le commissaire lui demande alors avec quel argent elle a acheté son épicerie. Elle dit que son ami Sidonie était son associé et que dans ce cadre, elle devait investir 5000 francs.
Vous trouverez dans mon sac à main un document qui en atteste.
Le commissaire fouille alors le sac à main.
Mais enfin, madame, ce document est un faux. Enfin, c'est visible à l'œil nu.
Et voilà comment la copine Mathilde se retrouve inculpée de meurtre, de vol et de faux en écriture. Et elle est placée le soir même au dépôt, matricule 6603. En l'état, tout porte à penser que si Mathilde a tué Sidonie, c'est pour son argent. Et les policiers se demandent maintenant d'où Sidonie tenait son argent. Ils n'ont pas à chercher bien longtemps, car un homme qui se prénomme Henri Joseph vient spontanément les voir. Il dit qu'il est inquiet d'être sans nouvelles de Sidonie, qui était à la fois sa locataire et aussi, il le reconnaît, sa maîtresse.
Vous me dites qu'elle a été assassinée ? Oh mon Dieu, quelle horreur !
Que pourriez-vous me dire sur cette femme, monsieur ? Madame Mertens.
Mertens, monsieur le commissaire. Elle est belge, de Liège.
Oui, je sais, pardon. Répondez à ma question.
Que vous dire ? Eh bien, elle était veuve, depuis 6 ans environ. Son mari était un commissaire de la police belge qui avait choisi de s'installer en France, à Boulogne-sur-Mer.
Sauriez-vous me dire, monsieur, quelle était la nature des relations entre votre amie Sidonie Mertens et Mathilde Frigard, dont nous avons des raisons de penser qu'elle a pu la tuer?
C'est-à-dire que c'est délicat. Enfin, vous voyez, vous imaginez aisément.
Je crains de comprendre, effectivement. L'amour, 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 toujours l'amour.
L'ami Henri Joseph a donné l'adresse de Sidonie dans le 9e arrondissement. Les policiers y font une découverte assez amusante. Des livres traitant des maladies vénériennes. De la ch'touille, quoi. Du mal de Naples, comme on disait à l'époque. Et puis, ils trouvent aussi des documents bancaires. Sidonie Mertens disposait d'une somme de 7500 francs. Le 15 avril, elle en a retiré 4000 et le 9 mai, 3500.
Il semble bien que ce ne soit pas sa signature. Ça n'est probablement pas elle qui a retiré l'argent. C'est possiblement son amie Mathilde.
Ça se confirme. Mathilde aurait tué Sidonie pour lui siphonner son argent et acheter son épicerie avec. Au cours de son enquête, le commissaire comprend assez vite pourquoi Sidonie Mertens, la morte, collectionnait les ouvrages sur la ch'touille. D'abord, elle a un deuxième appartement, 5 rue Neuve des Petits Champs. Un lupanar, en vérité. Mais en creusant, le commissaire s'aperçoit que depuis des années, elle a multiplié les amants. Mais ne nous attardons pas sur ces parties de jambes en l'air, elle est la victime. Paix à son âme. Intéressons-nous plutôt à Mathilde, sa meurtrière présumée. De moins en moins présumée. Elle est mariée, Mathilde, à un certain Alexandre Frigard, qui a la bonne idée de vivre en Normandie, à Caen. Autant vous dire que les deux ne se voient pas beaucoup. Mais ils s'écrivent, de temps en temps. Et c'est ça, entre autres, qui va la piéger.
Écoutez-moi ça. Voici la lettre que j'ai trouvée qu'elle adresse à son époux le 10 mai.
elle se félicite d'avoir pu trouver les fonds pour acquérir son épicerie. Elle dit que ça permettra à sa famille de travailler. Ah ben, ça nous fait un mobile, ça. Hein? Ça nous fait un mobile.
Et les policiers découvrent que Mathilde a tenté au moins 3 fois d'acheter un commerce. À chaque fois, elle a eu besoin d'emprunter de l'argent auprès d'agents d'affaires. Et à chaque fois, ils ont refusé de lui en prêter.
C'est-à-dire que vous comprenez, madame, vous n'offrez pas assez de garanties.
Et puis le juge réalise que ça ne fait que 6 mois que Mathilde vivait à Paris. Avant, elle vivait à Caen.
Bien, vous allez là-bas, hein, et vous essayez de savoir si Mathilde Frégard est arrivée à Paris avec de l'argent. Ça m'étonnerait, mais allez vérifier. Tâchez de trouver son mari.
Et il s'avère que son argent, si elle en avait, ne lui venait pas de son mari, car il a fait faillite. Et depuis, il vit dans un garni. Donc l'argent qui a permis d'acheter l'épicerie ne lui vient pas de son mari. Alors peut-être a-t-elle bénéficié d'un prêt ? Les policiers font le tour des banques de Caen.
Est-ce que cette dame, Madame Frégard, vous a emprunté de l'argent ?
Oh, certainement pas. J'aurais pas prêté de l'argent à cette femme. Pas le moindre centime. C'est une femme de mauvaise foi. Vous n'avez pas idée.
Son argent ne vient donc pas de la banque. Les policiers apprennent aussi une drôle d'histoire.
Figurez-vous, c'est amusant, qu'elle est allée voir les propriétaires d'un château, le château de Crèvecœur, qui entre nous est en ruine, et elle leur a dit qu'à sa connaissance, il y avait un trésor enfoui dans le château. Elle avait l'air d'y croire. D'après ce que je sais, elle a dépensé 2000 francs pour fouiller le château, en pure perte.
Donc elle avait un peu d'argent, mais elle l'a dépensé pour en trouver plus. Bref, à Caen, elle a mis sa très mauvaise réputation. Et a priori, quand elle a quitté Caen, elle était raide comme un lacet. Elle n'avait pas un fifreleur pour acheter son épicerie. Il reste une question à résoudre. Est-ce qu'elle était vraiment enceinte, Sidonie ? Mathilde a dit que c'était la raison de leur voyage à Fontainebleau, aller voir une avorteuse. Vous avez remarqué que l'autopsie n'a rien dit là-dessus.
Eh bien, vous allez me réaliser une seconde autopsie, exhumer le cadavre.
Et donc, on exhume le cadavre de Sidonie, et on le confie à un autre docteur que le premier, qui manifestement était en gros nul.
Je suis absolument formel. L'utérus de cette femme est totalement vide. Elle n'était pas enceinte.
Mathilde a donc menti là-dessus aussi.
Et dites-moi, docteur, au vu de vos observations, vous confirmez qu'elle a été empoisonnée à l'arsenic ?
À l'arsenic ? Oh, je ne pense pas. Moi, je pense qu'elle a été asphyxiée.
Un troisième docteur confirmera que Sidonie a été étouffée. Point d'arsenic. À propos, comment se sont-elles rencontrées, ces deux-là ?
C'est un agent d'affaires qui les a présentés l'une à l'autre. Madame Frégard cherchait un associé pour acheter une affaire, et c'est cet agent d'affaires qui a eu l'idée de lui présenter Madame Mertens, qui avait un peu d'argent dans les 7 000 ou 8 000 francs, je crois.
Elles se sont donc rencontrées autour de l'argent. Même s'il se confirme qu'elles étaient copines comme cochonnes, si vous voyez ce que je veux dire. Alors Mathilde a-t-elle séduit Sidonie pour son argent ? Eh bien, c'est une hypothèse sérieuse. Tout au long de cette enquête, le juge interroge bien sûr à plusieurs reprises Mathilde Frégard. Au total, il l'interroge 19 fois. Et 19 fois, elle nie.
Mais enfin, je vous dis, monsieur le juge, que j'ai rien à voir avec la mort de mon ami Sidonie. Rien. Je vous le jure. Et pourquoi donc serais-je allé à Fontainebleau pour la tuer ? Pourquoi n'aurais-je pas pu le faire à Paris ?
Et au passage, Mathilde refait le portrait de son ami.
Vous savez, c'était une prostituée, Sidonie. Elle faisait entre nous dans les 50 passes par jour, oui, au moins.
Dès lors, comprenez bien quel était mon intérêt de la tuer maintenant, si telle était mon intention. Enfin, l'exposition universelle allait débuter à Paris. Elle aurait gagné encore plus. J'avais tout intérêt à attendre. Et puis, il faut que vous sachiez quelque chose la concernant. Sidonie était une ivrogne. Elle buvait énormément, avec un penchant marqué pour le vin de champagne. Si elle avait continué ainsi, elle serait morte, de toute façon. Si j'avais été intrigante, je n'avais qu'à attendre. Je ne l'ai pas tuée, monsieur le juge.
Cela fait maintenant 2 mois et demi que le juge mène son enquête. Il n'a pas d'aveu, et il n'en aura pas. Mais il a dans son dossier tout un tas d'éléments qui suggèrent que Mathilde a tué Sidonie. Bref, il a de quoi la renvoyer devant la cour impériale. Et oui, on est sous Napoléon III, tout est impérial à l'époque. Et donc il rédige son acte d'accusation. Le procès est maintenant imminent. Jusque-là, la presse s'est assez peu intéressée à l'affaire. Quelques entrefilés, pas plus. Mais maintenant que le procès approche, elle se déchaîne. Elle raconte en général n'importe quoi. Vous savez comment sont les journalistes, hein ? Il leur faut du sensationnel. Le petit journal écrit « Madame Mertens avait apporté avec elle une forte somme d'argent. Elle a été retrouvée en forêt de Fontainebleau, mangée par des animaux carnassiers. » Et le bonhomme normand complète, la figure, les mains et les pieds avaient été en partie dévorés par des animaux carnassiers et des oiseaux de proie. Du délire. Le procès de Mathilde Frigard s'ouvre à Melun le 9 août 1867. Avec un problème de logistique, la salle ne contient que 10 chaises. Et au vu de la foule qui se présente, surtout des femmes, ben ça n'est pas assez. Alors on rajoute 30 chaises, qui sont à peu près toutes réservées par la femme du préfet, pour ses copines.
Faites entrer l'accusée, je vous prie.
Les journaux écrivent qu'elle a l'air d'une bourgeoise de province, qu'elle est voûtée, et d'ailleurs ils décident de l'appeler la bossue. L'un des journalistes présents écrit « Elle a un nez qui présente des habitudes de ruse ». Ah ben oui, c'est bien connu, hein. Le nez dit tout de vous. Mathilde a choisi comme avocat le meilleur de l'époque, Henri Lachaud, qui est célèbre pour avoir défendu quelques décennies plus tôt l'empoisonneuse Marie Lafarge. À 11h, on lit l'acte d'accusation. Et ensuite, place à l'interrogatoire de Mathilde. Pas toujours sur les faits, hein, mais plus souvent sur ses mœurs.
Vous aviez, madame, des habitudes qui ne sont pas naturelles chez les femmes.
En face, Mathilde garde son sang-froid. Elle a la voix claire et elle parle bien. Par exemple, quand le président lui reproche d'avoir été la proxénète de Sidonie.
Monsieur le président, ne peut-on pas profiter du mal sans le faire naître ?
L'interrogatoire de Mathilde dure tout au long de cette première journée d'audience. Les journalistes, celui du Figaro par exemple, sont assez séduits. Elle subit cet interrogatoire avec une intelligence et une énergie rares. Son regard mobile a une singulière vivacité. Et à en juger par le premier coup d'œil, on sent en elle une femme énergique et résolue à bien se défendre. Les débats se poursuivent le lendemain, samedi, par un défilé de témoins. Et ils se poursuivent le dimanche, après la messe, bien sûr. Le mardi, on en vient enfin au mobile supposé, l'acquisition de l'épicerie. Et on s'intéresse aux faux que Mathilde aurait utilisé pour vider les comptes de Sidonie. Un graphologue est appelé à la barre.
J'ai eu accès à des lettres rédigées par l'accusé. Et j'ai noté cette étrange habitude qu'elle avait d'écrire toutes les lettres C en majuscule, même au milieu d'un mot. Et l'on retrouve cette manie dans les documents bancaires que vous m'avez soumis. En conséquence, il paraît clair que c'est Madame Frigard qui les a rédigés, et non Madame Mertens. Quoi qu'il en soit, les deux femmes n'avaient pas du tout la même écriture. Celle de Madame Mertens est vive, facile, rapide, légère, une cursive anglaise, qui ne manque pas d'élégance. Celle de Madame Frigard, au contraire, est accentuée, mâle, ce qu'on appelle une bâtarde un peu lourde, une écriture de commerce, si vous voulez, avec une signature énergique.
On approche de la fin du procès. Le procureur impérial se lève.
C'est une femme diabolique, une menteuse, une sans-cœur.
Et ensuite, l'avocat de Mathilde, Charles Lachaud, entame sa plaidoirie, en commençant par discréditer sa cliente.
Oui, ma cliente est lascive et paresseuse. Et oui, elle est dominée par les sens. Ça n'est pas une femme qui succombe une fois et qui se repent. C'est une femme qui succombe souvent, qui ne se relève jamais et qui veut succomber encore. Elle est tout cela. Mais il n'en demeure pas moins que son innocence est incontestable. Et d'ailleurs, personne ici n'a pu apporter la preuve que Madame Mertens a été assassinée. On nous a dit qu'elle a été étouffée. Mais en vérité, elle est sans doute morte d'une congestion pulmonaire, causée par on ne sait quoi, et peut-être une indigestion.
Mathilde a l'air satisfaite de la plaidoirie de son avocat. Elle va lui serrer la main chaleureusement. Le verdict est pour demain. Les jurés délibèrent pendant 1h45.
Madame Frigard, levez-vous, je vous prie. La cour impériale vous déclare coupable des faits de meurtre, de vol et de faux en écriture. En conséquence, elle vous condamne aux travaux forcés à perpétuité.
Va-t-elle se pourvoir en cassation? Eh bien non. Et Maître Lachaud explique pourquoi.
Elle m'a dit ceci, je la cite. Elle m'a dit, c'en est fini entre le monde et moi. Je ne veux rien lui devoir. Je ne veux rien lui demander.
Mais ça n'est pas fini. Car quelques jours plus tard, Mathilde demande à rencontrer le procureur. Et là, elle qui a toujours nié, avoue.
Vos médecins légistes se sont trompés, monsieur le procureur. Ils ont dit que j'avais étouffé Sidonie. Ça n'est pas vrai. Enfin, j'avais laissé volontairement près du cadavre une petite fiole. Vos policiers sont fort mauvais. Ils ne l'ont pas trouvée. Je lui ai fait respirer de l'acide prussique.
De l'acide prussique, autrement dit, du cyanure d'hydrogène. Le premier légiste n'avait pas tort, elle a été empoisonnée. En tout cas, des aveux qui arrivent après le procès, ça n'est pas banal, même si ça ne change rien. Mathilde est conduite à la maison centrale de force et de correction, installée dans une ancienne abbaye cistercienne, à Auberive, en Haute-Marne. 379 détenus, surtout des voleuses et des abuseuses de confiance, et quelques mères infanticides, et quelques meurtrières comme elles. En guise de travaux forcés, on leur fait faire de la couture. La vie en détention est rude. Deux promenades, tête baissée dans la cour, et deux collations par jour, plus une prière le dimanche. Et le droit d'écrire un courrier à ses proches uniquement si on n'a pas été puni. Or, pendant sa détention, Mathilde est punie 5 fois. Une fois parce qu'elle a taché un livre, 2 fois parce qu'elle a brisé une cruche, 1 fois parce qu'elle a commis une malfaçon, et 1 dernière fois parce qu'elle a coupé le bout de ses bas. En 1884, les autorités décident qu'Auberive doit devenir un lieu de détention pour mineurs. Et donc les femmes qui y sont détenues
sont transférés vers d'autres prisons. On fait monter Mathilde dans un fourgon cellulaire avec 5 autres détenus. Et à partir de là, on perd sa trace. Nul ne sait où elle a été transférée. Est-ce qu'elle a bénéficié d'une libération? Est-ce qu'elle s'est évadée pendant son transfert? Eh ben, on n'en sait rien. Les archives sont muettes à ce sujet. Désolé les amis, mais pour une fois, je n'ai pas totalement la fin de mon histoire. J'ai tiré mon histoire du livre de Myriam Tsikounas qui vient de paraître, Le monde de Mathilde aux éditions Georges.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.